Chers auditeurs, chères auditrices, dans la dernière leçon avant l'interruption pascale, j'avais été amené, on s'en souvient peut-être, à évoquer la révolte du prince macédonien Alexandre, fils de Cratère, contre son oncle, le roi Antigone Gonatas, révolte survenue en 251 avant Jésus-Christ, au cœur de la vieille Grèce, puisque l'insurgé tenait les places fortes de Corinthe, notamment, et de Chalcis, qui prenaient Athènes comme dans un étau. Ce milieu du IIIe siècle, en dépit des progrès notables qu'enregistre année après année la recherche historique, reste une période assez obscure, où bien des questions sont encore sans réponse. Ainsi, lorsque l'on tente d'évaluer les graves perturbations que cet épisode entraîna pour Athènes, au témoignage des quelques inscriptions dont on dispose, on ne peut manquer d'observer un fait à première vue singulier, l'absence de toute réaction forte de la part du souverain macédonien, qui était pourtant menacé sur un point extrêmement sensible de son système de domination sur la Grèce propre, alors que les Athéniens eux-mêmes, touchés de plein fouet par les incursions d'Alexandre, soit depuis le Bé, soit depuis Corinthe, avaient dû, au printemps 247, après plusieurs années de guerre, ou du moins d'insécurité, aller jusqu'à lancer une souscription publique pour assurer le salut de la cité Eisten Soterian Tes Poleos. Pas d'intervention militaire directe de la part d'Antigone, semble-t-il, à la différence de ce qui s'était passé 20 ans plus tôt lors de la fameuse guerre de Crémonides, dont le roi avait personnellement dirigé les opérations contre Athènes, en Mégaride voisine, comme en Attique même, ainsi que l'attestent toutes nos sources, et très particulièrement le beau décret de Ramnon pour l'homme politique Aristeides de Lamptrae, document certes toujours inédit, mais connu désormais de vous dans ses grandes lignes grâce à la générosité de son inventeur. Entre les deux conjonctures, le contraste serait donc total, puisque c'est à peine s'il est fait mention du roi lui-même dans les quelques textes et documents qui se rapportent à la sécession d'Alexandre. Tout semble se passer comme si Antigone, en cette circonstance-là, du fait peut-être de son âge, car n'oublions pas qu'il était en 250 à la veille d'atteindre les 70 ans, avait adopté une position de repli, un profil bas, dirions-nous aujourd'hui, laissant aux cités, du moins à celles qui n'étaient pas encore tombées au pouvoir de l'insurgé, le soin de se défendre par leurs propres moyens, quand bien même la tentation pouvait être forte pour elle, à commencer par Athènes, de se soumettre à l'autorité du jeune prince, soit d'emblée, avec l'espoir d'améliorer ainsi leur statut politique, soit de guerre lasse, après avoir subi d'incessantes attaques de sa part, notamment le long des côtes, dont les comtes de l'Attique, comme cela ressort désormais d'une autre grande inscription de Ramnonte, non encore véritablement publiée, le décret en l'honneur d'Arcandros. Héros de la résistance, peut-on dire, aux incursions des pirates qui avaient alors partie liée avec l'usurpateur. Et cela aussi bien dans le canal de l'Eubée que dans les eaux du golfe Saronique, tout près d'Athènes. Il y a sans doute une part de vérité dans cette impression d'abandon plus ou moins complet que donnent nos maigres sources sur l'histoire d'Athènes en ces années-là. Mais il faut prendre conscience aussi qu'en l'absence d'un récit suivi des événements, on ignore forcément beaucoup de choses. Nous n'avons plus en effet que des bribes des historiens contemporains, en particulier de l'Athénien Philarque, qui devait rapporter les faits avec un grand luxe de détails et un certain pathos, certes, ce qui lui fut du reste reproché par Polybe, sans ménagement, ni d'ailleurs perfidie. Il eût été passionnant d'avoir le point de vue de cet auteur engagé, ami qu'il était du roi de Sparte, Cléomène, et adversaire par là des Antigonides, aussi bien d'ailleurs que des Achéens, d'où le dédain avec lequel d'ailleurs le traite Polybe, car Philarque dut faire une place considérable aux épisodes souvent dramatiques qui ponctuèrent l'aventure de cet Alexandre. Sans parler de sa mort, avec les rumeurs d'empoisonnement qui coururent après sa fin. Si l'on doit écarter sans hésitation cette version par trop romanesque, qui était probablement colportée déjà par Philarque, avant de tomber sous les yeux de Plutarque, vous l'avez dans le passage de la vie d'Aratos, 17, elle paraît indiquer au moins une chose, c'est que le neveu d'Antigone ne mourut pas sur le champ de bataille ou lors d'un assaut lancé contre l'une ou l'autre de ces forteresses eubéennes. Par ailleurs, il semble bien difficile de croire que le roi de Macédoine, en dépit de son attentisme apparent, se soit abstenu de toute intervention militaire directe pour venir à bout de cet Alexandre. On peut penser que la pression sur lui s'accentua à partir de 246, lorsque mourut le roi d'Égypte, le fastueux Ptolémée Philadelphe, qui l'avait appuyé en sous-main, et surtout, une année plus tard, quand la position de l'usurpateur eût été certainement affaiblie en Grèce centrale par l'éclatante victoire que les Étoliens, peuple donc de l'ouest de la Grèce, ces Étoliens qui remportèrent en 245 sur les Béotiens, alors là, voisins d'Athènes, Béotiens alliés eux-mêmes du grand patriote achéen Aratos de Sicyone, en qui le prince macédonien avait trouvé dès le début un appui efficace. Si l'on était mieux informé, on verrait sans doute qu'à la mort du rebelle, quelle qu'ait été encore une fois la cause exacte de cette mort, son éphémère royaume s'était déjà réduit à la Corinthie, cœur du dispositif, si sa veuve, l'énergique princesse Nicaïa, prétendit vouloir conserver la haute main sur la forteresse, la citadelle de Corinthe, elle ne paraît pas avoir songé à revendiquer la possession des places fortes eubéennes, pas même celle de Chalcis. On va revenir dans un instant sur la manière dont fut rapidement délogée, après la disparition d'Alexandre, princesse énergique. Faisons au préalable un petit crochet par Athènes pour mettre en évidence un séjour attesté épigraphiquement du roi Antigone en Attique. Peut-être, mais ça n'est pas sûr, après une longue absence due, on l'a pu le supposer sans preuve mais sans invraisemblance non plus, au fait qu'il aurait pu être retenu dans son royaume par quelques invasions étrangères. La réalité de ce voyage découle d'un décret d'Éleusis, hélas très mutilé, on n'en a que le début, les considérants, et encore partiellement, ces considérants qui font état, Epeide Antigonos au Basileus, de l'arrivée du roi Aphicomenos, puis vous voyez que la phrase est amputée, il y a un bout de morceau de préposition, deux adverbes de circonstance qui devaient mentionner là un toponyme. Et a-t-on pensé pendant longtemps, le point de départ du voyage, Aphicomenos ex Eretria, selon une conjecture assez ancienne, reprise par Abicht dans ses Untersuchungen. Et tout paraissait plaider en faveur de cette conjecture. Antigone, depuis la Macédoine, ayant pu faire escale dans une des cités du canal Euboïque, contournant donc l'Attique, avant d'arriver à Éleusis. Mais cette restitution n'a pas été retenue dans la toute récente publication des Inscriptions of Éleusis, par Kevin Clinton, qui propose désormais de lire et de restituer tout simplement S. Éleusina. Vous voyez, S. Éleusina étant arrivé à Éleusis, bon, ce qui semble à tout prendre, la solution la plus économique, si ce nouveau déchiffrement, qui est tout de même reste un tout petit peu surprenant par la forme S qui est un peu anachronique, qui a disparu quasiment au lieu de Eis. On peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux, conformément à, au Stoïkédon, restituer Ep Eleusina. Mais, encore une fois, c'est probablement la, la bonne lecture, en tout cas pour la restitution Eleusis. D'autre part, ce décret avait été placé autrefois à une date très haute, beaucoup plus haute, quand tout le monde était convaincu qu'il se situait avant la guerre de Crémonides, dans cette décennie 280-270, qui était vue comme l'apogée, s'en souvient peut-être, des relations entre Antigone et Athènes, considérées comme seconde capitale du royaume macédonien. Mais balayant, après d'autres, cette vision entièrement erronée de l'histoire athénienne, montrant en particulier que toute présence royale à Athènes et en Attique était exclue avant la capitulation de 261, Christian Habisch, dans ses Studien de 1982, fit valoir de bonnes raisons pour mettre la venue du roi à Eleusis très peu après 245, quand Antigone, enfin débarrassé de son encombrant neveu, put reprendre pied sans trop de danger dans ses possessions helléniques. Cette chronologie a été adoptée par Clinton, et elle paraît effectivement vraisemblable. Il convient de relever toutefois que un des arguments, peut-être le plus important, pour placer l'inscription après 245 est aujourd'hui caduc, puisque désormais l'on ne sait plus rien de l'itinéraire du roi, le nom d'Érétrie ayant été écarté. Et donc de la conjoncture politique. La présence d'Érétrie impliquait que le roi était de nouveau maître de l'Eubée. Bon. Donc théoriquement, on pourrait mettre ce décret encore du vivant de l'usurpateur, et l'on aurait du même coup l'indice que Antigone osa venir en Attique en pleine guerre. Mais l'hypothèse serait bien audacieuse quand on songe au danger que le roi aurait eu à affronter en empruntant un itinéraire maritime alors infesté de pirates à la solde du prince insurgé. Tout bien pesé, donc, mieux vaut s'en tenir à la date défendue par Habisch, et cela d'autant plus que la présence de Gonatas en Grèce, à ce moment-là, est expressément attesté dans la tradition historiographique. C'est dans la vie d'Aratos, chapitre 15-17, vous avez ce texte en partie. Plutarque se plaît à rapporter, en suivant très probablement et de près le récit haut en couleur de Philarque, justement, comment le roi, au lendemain de la mort de son neveu d'Alexandre, se rendit en ville de Corinthe, ici, près de l'isthme, dans le but de reprendre par la ruse, s'il le pouvait, la citadelle de l'Acrocorinthe, toujours occupée par les troupes du rebelle, dont le commandement était passé aux mains de sa veuve, Nicaïa. Passage, c'est célèbre, où est évoqué l'amour passionné que le roi Antigone concevait, non pas pour cette femme, fort belle encore, mais pour l'Acrocorinthe en personne, la citadelle, quoique Acrocorinthos fût en grec du genre masculin, mais ce n'était peut-être pas un obstacle. Amour très raisonnable, au demeurant, puisque, comme Plutarque le relève, avec beaucoup de pertinence, la possession de cette place, surveillant l'isthme de Corinthe, était absolument capitale pour contrôler à peu de frais, sur terre comme sur mer, le Péloponnèse tout entier. Il y a un beau passage, là, Aratos 16.5. Entraîné donc par son irrépressible passion pour le rocher de la sourcilleuse Corinthe, comme disaient les poètes, Ophruessa Corinthos, Antigone fit miroiter à Nicaïa, qui avait sans doute pris le goût au titre de reine, la possibilité d'un mariage avec son fils Démétrios. Le flattant du doux espoir, écrit joliment le biographe, d'épouser ce prince royal et d'unir sa vie à celle d'un jeune homme qui n'était pas pour déplaire à cette femme plus âgée. symbiosis pros huc aedes entucain presbyterae dunaeci meiracion. Démétrios avait tout de même alors plus de 30 ans, tandis que Nicaïa devait bien en avoir 35, voire 40. Ayant envoyé donc son fils en avance pour les grandes manœuvres de séduction, Antigone vint peu après recueillir les fruits de la manœuvre. Car si Nicaïa n'était pas insensible au charme du jeune homme, la tête ne lui tournait pas, cependant, au point de céder la Crocorinthe avant d'avoir convolé en juste noce. Aussi le roi s'employa-t-il à organiser la cérémonie nuptiale, tout cela est donc d'actualité, voulant donner l'impression qu'il n'avait désormais de soucis que pour ce mariage. Le grand jour arriva donc, c'est aujourd'hui, et fort courtoisement, le roi s'offrit à conduire sa future belle-fille au théâtre de Corinthe. Mais, en chemin, il lui faussa discrètement compagnie. Il entreprit alors, avec une très faible escorte, la rude montée de l'Acrocorinthe. Ça n'est pas rien. Se pressant, malgré son âge, écrit Plutarque, à Milomenos par Elikian. Il se présente seul à la porte de la forteresse, ordonnant qu'on la lui ouvre. Les gardes, médusés, obtempèrent et Antigone s'empare de la place sans coup férir. L'épisode est tellement extraordinaire qu'on ne voit pas le moyen ni l'intérêt de le mettre en doute, pas plus qu'on ne voudrait douter du célèbre mot de Philippe VI de Valois, venant frapper à la porte de quelques châteaux des environs de Crécy après sa retentissante défaite de 1346, ouvrez par la grâce de Dieu, c'est l'infortuné roi de France. Même la suite n'est pas totalement invraisemblable de la part de cet homme. Je parle à nouveau d'Antigone, qui avait connu bien des revers dans les années précédentes. Il aurait explosé d'une joie incontrôlée, ce qui bien sûr lui attire la réprobation de Plutarque le moraliste, comme déjà la critique sans doute de l'historien Philarque. Mais Antigone n'en restait pas moins le froid calculateur qu'il avait été durant tout son règne. La pauvre Nicaïa en fit l'expérience à ses dépens, elle qui, en un seul jour, perdit l'Acrocorinthe et son fiancé, car de noces, il ne fut évidemment plus question, quoi qu'on en ait parfois pensé. L'allégresse du roi ne devait du reste pas être de bien longue durée non plus, puisque moins de 2 ans plus tard, il se voyait privé à son tour de l'Acrocorinthe par un coup de force au moins aussi audacieux que le sien, celui qu'Aratos de Sicyone réalisa en 243, alors qu'il présidait au destin de cette confédération achéenne complètement régénérée par lui, désormais en pleine expansion. Échec terrible pour Antigone, qui ne pouvait plus guère espérer remettre jamais la main sur la forteresse de son cœur. De fait, en 239, à l'âge de 80 ans, il mourut veuf de sa bien-aimée Acrocorinthos. On voit ainsi combien ce monarque fut personnellement impliqué dans les affaires de la Grèce durant ces années-là, entretenant des contacts étroits jusqu'en 243, non seulement avec les gens de Corinthe, sans doute de Mégare, mais aussi avec les cités qui devaient lui rester fidèles jusqu'à sa mort, Démétrias, le grand port de la Thessalie, Chalcis, Istié, Rétrie en Eubée, et surtout Athènes. Cependant, on jugeait à peu près impossible qu'Antigone Gonatas y ait jamais reçu des honneurs bien considérables, allant au-delà des vœux de bonne santé que l'on voit apparaître dans les décrets attiques à partir des alentours de 250, comme dans ce beau décret pour la princesse Aglauros, qui est connu depuis peu d'années, depuis 1985, avec Upère, les vœux, Upère, tu basileos Antigonou, kai philas tes basilices, kai ton egonon auton, et pour leur progéniture. Ce n'est pas que les Athéniens lui eussent tenu spécialement rigueur de sa mainmise sur leur ville, mais parce que ce roi aurait été lui-même foncièrement hostile à toute forme de divinisation ayant tiré la leçon de l'extravagante panoplie d'honneurs que son père Démétrios, Polyorcète, s'était donné le ridicule d'accepter de la part du peuple athénien après 295, surtout, on l'avait vu. Témoin lui-même de cette mascarade, le jeune Antigone Gonatas aurait été comme vacciné à tout jamais contre la tentation de se laisser aller à pareils excès. Telle était en particulier l'opinion de son plus célèbre biographe moderne, l'historien britannique Tarn, Antigone Gonatas, de 1913, qui voyait dans cette retenue un des traits les plus honorables et même les plus sympathiques de la figure du roi Antigone. Disons d'emblée, pour éviter tout malentendu, que Tarn avait raison sur un point qui n'est nullement marginal, certes, mais qui n'est pas propre à son héros. C'est que, pas plus que les fondateurs de la dynastie, ni que ses successeurs, Antigone n'institua jamais un culte d'État en Macédoine, quand bien même les Ptolémées d'Égypte, puis les Séleucides de Syrie, quoique eux aussi de souche macédonienne, il ne faut pas l'oublier, passèrent assez vite à cette forme d'affirmation de leur souveraineté absolue sur leur sujet. La situation était différente en Macédoine, dans ce vieux royaume, comme plusieurs spécialistes des choses macédoniennes ont fort bien su le mettre en évidence. Ce dont il s'agit ici, c'est tout autre chose, à savoir le culte spontanément institué par une cité pour un souverain dont elle dépend sans faire partie pour autant de son royaume. Or là, il s'avère aujourd'hui que Tarn a prêté à Antigone Gonatas une intransigeance qui ne fut visiblement pas la sienne. Du moins, plus vers la fin de son règne. On notera d'ailleurs que Christian Habicht, dès 1956, son premier livre consacré précisément au culte royal dans les cités grecques, c'est un classique, Gottmenschentum und griechische Städte, adoptait un point de vue un peu différent, tout en essayant d'expliquer l'apparente répugnance des cités à instaurer un culte pour Antigone Gonatas. Il ne voulait pas exclure que le roi eût néanmoins pu accepter, ici ou là, l'octroi d'honneurs divins ou quasi-divins. C'est qu'il y avait dès alors au moins une inscription trouvée dans la petite île d'Ios, au sud de Naxos, 168, où un roi Antigonos apparaissait avec le titre de Sauter, Basileos Antigono Sauteri, impliquant que cet Antigone avait été l'objet d'un culte. Or, Habicht montrait que, pour d'évidentes raisons chronologiques, il fallait reconnaître en lui, en cet Antigone, Antigone Gonatas, après sa mainmise sur les Cyclades vers 255. D'autre part, il existait en Eubée des fêtes appelées Antigonea, qui qu'atteste notamment un assez célèbre décret de la ville d'Istié Oréos, tout au nord de la ville, pour un banquier rhodien. On voit, il est question de la Pompeton Antigoneion. Mais ces Antigoneia, on pensait devoir les rapporter à Antigone d'Ozon, roi après 229, puisque dans la Confédération achéenne des années 220, Polybe, au livre 2, 45, atteste expressément des fêtes pour ce roi, avec sacrifices, Thucydides, procession, pompaille et concours agones. J'ai plaisir à noter cependant que, dans sa belle thèse de 1993 sur Antigone d'Ozon, et sans connaître encore le document dont il va être question maintenant, Sylvie Leboeck n'excluait pas que les Antigoneia des cités eubéennes puissent remonter, eux, à Antigone Gonatas. Il s'agit en effet d'une inscription nouvelle, découverte en 1989 par l'archéologue Vassili Petrakos dans ses fouilles de Ramnonte, Inscription rendue publique pour l'essentiel dès l'été 1990 et qui est venue d'un seul coup, on peut dire, déverrouiller la serrure de manière assez inattendue, compte tenu du caractère un peu périphérique de ce site campagnard. C'est d'ailleurs un petit décret qui ne paye pas de mine, vraiment, sur une stèle très sobre, gravée avec négligence, dans une écriture qui a pu être qualifiée de laide, bon, chacun peut en penser ce qu'il veut, par un savant aussi autorisé que notre collègue et vieil ami Philippe Gautier, analysant ce document dans le bulletin épigraphique de 1994. Le décret avait été voté par les démotes de Ramnante, numéro 7 dans le recueil de Petrakos, sur proposition d'un certain Elpinikos, fils de Mnésippos. Il n'émane donc pas, c'est important, de soldats de la garnison, que ce soit des citoyens ou des étrangers, qui sont stationnés dans la forteresse. Ce qui rend a priori improbable que le culte d'Antigone, en ce lieu, doive s'expliquer par la présence d'une garnison macédonienne, ou prétendument macédonienne, comme le voudrait l'excellent John Michelson dans un livre qui fait autorité sur Religion in Hellenistic Athens. Un livre qu'il ne faut pas confondre avec un petit ouvrage du même auteur paru assez récemment et traduit assez médiocrement en français sous le titre La religion populaire à Athènes. C'est Elpinikos, en outre, n'est pas un inconnu dans le petit monde, disons, des hommes politiques actifs au sein du dème de Ramnante, puisque c'est lui qui, en l'année 235, proposa le long et substantiel décret pour l'ancien stratège Dikaiarchos. C'est le document que vous avez dans votre dossier à la fin avec une traduction. Personnage dont la carrière est intéressante et sur laquelle il y aura lieu de revenir plus tard. Ce rapprochement fournit donc d'emblée une date approximative fort précieuse pour l'inscription discutée ici. En 235, dans le décret pour Dikaiarchos, on est déjà sous le règne de Démétrios II, à mi-distance en quelque sorte d'Antigone Gonatas, disparu, on l'a vu, en 239, et d'Antigone d'Ozon, qui succéda à Démétrios en 229. N'aurait-on pas le droit dès lors, ou plutôt le devoir, d'hésiter une fois de plus sur l'identité de ce basileus Antigonos qui est mentionné dans le décret de Ramnante? Dieu merci, l'hésitation n'est point permise, car il est assuré que dès l'avènement d'Antigone d'Ozon, donc en 229, comme régent d'abord, puis comme roi, l'Attique tout entière échappa à la tutelle macédonienne. On ne saurait donc douter un seul instant que les honneurs dont il est question dans cette inscription furent octroyés à Antigone Gonatas, d'où l'exceptionnel intérêt du document. Car il prouve d'abord que la décision des gens de Ramnante avait été précédée par un décret du peuple d'Athènes. On lit en effet ce qui suit. Attendu que le roi Antigone et sauveur du peuple, sautèrent tous des mots, ne cesse d'agir en bienfaiteur du peuple des Athéniens, raison pour laquelle le peuple l'a honoré d'honneurs égaux à ceux des dieux, timais isoteros, à la bonne fortune, etc. Le témoignage est donc explicite, à souhait. Ces honneurs qualifiés de isoteroi, adjectif qui n'est pas nouveau, qui est attesté déjà dans la poésie homérique et qui est caractéristique du rapprochement que les Grecs osaient faire entre les dieux, les héros et les hommes, ces honneurs, disais-je, sont très différents de ceux qui étaient accordés au commun des bienfaiteurs, même lorsqu'il s'agissait de leur conférer ces mégistai timai, les plus grands honneurs. On n'est tout simplement pas dans la même sphère. Car Antigone ne se voit octroyer, à ce moment-là en tout cas, ni statut, ni proédrie, ni aucun autre privilège de ce genre. Il ne reçoit même pas l'éloge ou une couronne. On lui fait seulement, mais ce n'est pas rien, bien sûr, une place dans le panthéon de la collectivité. Et dans le calendrier des fêtes, Agamemnon, en effet, on décide d'accomplir en son honneur un sacrifice annuel, Thuein Auton, le dixième jour du mois Hécatombaion, premier mois de l'année attique, à l'occasion du concours gymnique des grandes Némésies, Ton Mégalon, Némésion, To Gymnico Agoni, dont la date de célébration ne nous était pas connue jusque-là, et donc maintenant déterminée. On précise d'autre part que les fidèles auront à se ceindre d'une couronne, Stéphane Foren. D'autre part que pour subvenir aux frais du sacrifice, et sans doute aussi de la stéphanéphorie, on utilisera le produit d'une taxe liée à des opérations de l'agora, to agorastikon, hein, une taxe. Enfin, la responsabilité du bon déroulement de la cérémonie est confiée à deux magistrats locaux, le démarque, monsieur le maire en quelque sorte, et le trésorier en fonction. Toutes ces dispositions, toutes les dispositions qui constituent une loi sacrée, se trouvent donc réunies, là, et sobrement formulées. Il n'y a donc pas à douter un seul instant de l'existence d'un culte. Reste tout de même une difficulté, au moins qui a été un peu escamotée. Elle découle de l'état de la stèle, qui est gravement, vous voyez, gravement mutilé dans ces dernières lignes. La restitution de la clause relative à la gravure ne fait certes pas de problème, mais où avait-on prescrit de dresser la stèle elle-même ? Seule subsiste, en fait, dans la ligne 17, le mot « basilée », encore sans que le cas en soit déterminé. Dans sa première édition, Petrakos avait songé à écrire « kai stesai », voilà, avait écrit « kai stesai » ou « andokei to basilei antigonoi » et mettre la stèle à l'emplacement qui plaira au roi Antigone, sur le modèle de quelques décrets pour des stratèges. Mais Gautier a fort bien observé et objecté à cette restitution trop rapide que le roi, du fait de son absence, sans parler de sa dignité, ne pouvait pas être assimilé à un stratège en fonction. Il a donc proposé le supplément adopté ensuite par Petrakos lui-même, qui est celui-ci, stesai para ton bomon tu basileos. La stèle devait donc, aurait donc été placée auprès de l'autel du roi Bomos, un libellé qui s'appuie effectivement sur bien des parallèles hellénistiques. Le problème, c'est qu'il n'est pas question de cet autel Bomos dans le dispositif du décret. Or, si l'on avait pris la décision d'en ériger un, il aurait fallu nécessairement le dire, ne serait-ce qu'en raison de la dépense que cela devait occasionner. Faut-il alors admettre qu'il s'en trouvait déjà un dans le Némésion, dans le sanctuaire de Némésis ? Mais on voit d'emblée ce que cela impliquerait. C'est qu'une forme de culte royal aurait existé dès avant la décision prise de sacrifier au basileus. Bref, c'est l'impasse. Il me semble pourtant qu'on pourrait assez aisément sortir de cette aporie en supposant que le monument auprès duquel la stèle devait être érigée était non pas un bomos, mais simplement une statue portrait, une eikone. Je proposerais donc d'écrire « paraten eikona tu basileos ». Dans un premier temps, par conséquent, les gens de Ramnonte auraient dressé du roi Antigone une statue en plein air, honneur certes important, mais non liée à la célébration d'un culte. Ce n'était pas une statue de culte, un agalma, comme disaient les Grecs, placée normalement d'ailleurs à l'intérieur du temple. Statue purement honorifique, comme pour les grands évergètes. De fait, bien des rois et des reines ont été honorés de cette manière. Mieux, une inscription d'Athènes, trouvée au pied de l'acropole, atteste précisément qu'une base, béma, et une statue portrait, eikone, c'est ce texte-ci, IGD 2793, furent érigées vers 250 avant Jésus-Christ pour un roi Antigone, Basileus Antigonos, identifiable par conséquent à Gonatas. Ce décret, il est vrai, n'est pas attique. Il fut voté par une cité qui avait demandé aux Athéniens, par Athénaïon, à la ligne 7, de faire dresser cette statue du roi sur l'acropole. On avait pensé aux Samiens, la cité étant connue, je crois qu'il s'agit d'une autre cité de l'Asie mineure côtière. Je ne discute pas de ce problème ici. De fait, ce qui me semble tout à fait clair, c'est que les Athéniens n'ont pas pu accepter la présence d'une telle statue royale chez eux avant d'en avoir eux-mêmes érigé au moins une. Dès lors, c'est dans un second temps seulement qu'ils auraient fait un pas de plus en instaurant un culte pour ce roi. Moins mutilé, peut-être, les dernières lignes du décret de Ramnonte nous auraient éventuellement instruit là-dessus. Mais alors, elle semble être tout sauf banale. Cela nous amène bien sûr à nous interroger sur la date de ce petit document de Ramnonte. Vasili Petrakos a jugé prudent de s'en tenir à la fourchette la plus large, de 261 à 239, c'est-à-dire toute la période pendant laquelle Antigone fut le maître de l'Attique. Mais Philippe Gauthier, puis Abicht, ont plaidé avec raison pour une estimation chronologique plus restreinte. Selon eux, l'institution d'un culte conviendrait bien à ce tournant de la période d'occupation macédonienne que fut, on l'a vu, l'année 255, quand Antigone laissa aux Athéniens la bride sur le cou, leur accordant une certaine autonomie et les débarrassant surtout de la présence gênante d'une garnison placée à l'intérieur de leur enceinte. Cela ne m'a jamais paru entièrement convaincant, car pour mériter le titre tout de même remarquable de sauter tout démou, sauveur du peuple, on est enclin à penser qu'Antigone dut faire un peu plus qu'accorder à la collectivité athénienne un semblant de liberté. Il faut songer, je crois, à quelque chose de plus dramatique. Dès lors, de deux choses l'une. Ou bien on admet que les Athéniens furent obligés de considérer Antigone comme sauveur, pratiquement dès la capitulation de leur cité en 261, attitude hypocrite, sans doute, mais dont il y aurait des exemples à Athènes même, et qui, en l'occurrence, pourrait se justifier par le fait que Antigone avait été et pouvait être considéré comme un véritable sauveur ou méritant ce qualificatif par la victoire ancienne qu'il avait remportée en 277 contre les Gaulois, apparaissant là comme un véritable sauveur des Grecs de Grèce propre. Et on a un décret qu'on avait examiné, 677, qui se en rapport avec un personnage tout dévoué à la cause d'Antigone, c'est Héraclitos d'Atmonon. Ce paraît être en gros la position de Stephen Tracy, qui, lors d'un colloque athénien de 2003 sur les Macédoniens à Athènes, a défendu l'idée que, dès la capitulation de la cité, donc, Antigone se présenta ou fut présenté comme roi d'Athènes. C'est même le titre de sa communication, Antigonos Gonatas, vous voyez, King of Athens. Et l'épigraphiste américain prétend appuyer cette opinion sur le libellé même du décret de Ramnonte, où Antigone serait tenu pour « the king and savior of the people ». Mais je crains qu'il n'y ait là un véritable contresens, puisque l'inscription, on l'a vu, dit « O basileus caisoter tout demu » et non pas « Antigonos o basileus caisoter tout demu ». C'est autrement dit, le roi Basileus, le mot Basileus, qualifie Antigone comme monarque, tandis que le titre de soter est seul à régir le génitif tout demu. Antigone n'a jamais été roi d'Athènes, au sens strict. Cette malencontreuse appellation me paraît devoir être proscrite en quelque langue que ce soit. Dès lors, la solution qui s'impose pour la date et les circonstances de l'octroi à Gonatas des timai isoteoi est celle qu'a proposée dans ce même colloque, mais sans faire la critique de Tracy, la chercheuse grecque Ioanna Kralli, c'est vers 245 seulement, au lendemain de la mort du neveu d'Antigone. On a vu en effet combien la guerre engendrée par la rébellion d'Alexandre avait été lourde pour Athènes, combien douloureuse en particulier elle le fut pour Ramnonte, à la lumière de plusieurs décrets, notamment du décret pour Arcanros. On peut dès lors tenir aujourd'hui ce décret, bon, je vous en montre une image simplement, mais, puisqu'il est toujours inédit, on peut dès lors tenir aujourd'hui pour vraisemblable que peu après cette date, 247, activité d'Arcanros, une intervention plus vigoureuse d'Antigone dut débarrasser Athènes de la pression exercée par le rebelle. C'est à la suite donc de cette délivrance, véritable délivrance, que les Athéniens furent amenés à instituer un culte pour le roi sauveur. Dans la foulée, les démotes de Ramnonte, mais ils ne furent pas les seuls, auraient donc voté une espèce de décret d'application par lequel ils manifestèrent le désir d'assimiler tout naturellement le culte d'Antigone à celui de leur grande déesse Némésis, selon un processus d'intégration qui est, pour ainsi dire, de règle dans le phénomène de la divinisation des souverains hellénistiques. Ce qui plaide aussi très fortement pour cette datation basse dans le règne d'Antigone, c'est que le décret en question, on l'a dit, fut proposé par l'homme qui précisément est l'auteur du décret voté plus tard, sous le règne de Démétrios II déjà, en l'honneur du stratège Dicaïarchos. C'est donc le document que vous avez. Donc, il y a un extrait sous vos yeux. Car ce magistrat, entre autres bienfaits, avait fourni de sa poche les hieréa, les victimes pour le sacrifice, des Némésia et du roi. Némésia et du roi. Eistentusian ton nemesion kaitou basileos. Ceci en raison du fait que les sacrifices avaient été interrompus par la guerre, ek leipuson tontusion diaton polemon. Ce monarque honoré par un culte, on avait naguère encore les meilleures raisons de l'identifier alors au roi régnant à l'époque de ce décret, c'est-à-dire Démétrios II. Or, il est clair désormais qu'il s'agit d'Antigone Gonatas, après le décès duquel on avait dû renoncer rapidement, faute de moyens à accomplir le sacrifice prescrit par la loi sacrée. Il fallut un généreux stratège, en l'occurrence Dicaïarchos, pour raviver ce culte, du moins jusqu'en 229, année de la libération définitive d'Athènes. Il en alla différemment dans le baie voisine, qui demeura, elle, soumise aux Antigonides beaucoup plus longtemps. Les Antigonéens, institués là aussi pour Antigone Gonata, cela m'a paru clair depuis longtemps, continuèrent à être célébrés jusqu'à la fin de la domination macédonienne, 30 ans plus tard, c'est-à-dire aux alentours de 200. Cette guerre, Diaton Polemon, dont parle le décret de Ramnonte pour Dicaïarchos, est à n'en pas douter la guerre dite ailleurs et d'ailleurs surtout par les modernes, Démétrios, Démétrios, Polémos, guerre démétriaque. Il s'agit en effet d'un conflit ayant occupé pratiquement tout le règne du successeur de Gonatas, ce Démétrios le Jeune, qui, une demi-douzaine d'années plus tôt, avait servi d'appât pour duper la belle veuve Nicaïa. Si le roi Démétrios II, c'est le nom qu'il a dans nos manuels, fut entraîné à guerroyer ainsi pendant 10 ans jusqu'à sa mort en 229, ce n'est pas tout à fait de gaieté de cœur, mais parce qu'une alliance avec le royaume d'Épire, Macédoine, Épire, de l'autre côté de la Dionie, qui était lui-même en difficulté, devait lui valoir l'hostilité déclarée des Étoliens, la grande confédération de l'Ouest. Ces Étoliens, en effet, insatiables dans leur désir d'étendre leur État fédéral dans toutes les directions, tinrent à profiter de la disparition du souverain épirote, Alexandre II, un autre Alexandre, fils du fameux Pyrrhus, pour récupérer tout ou partie de l'Acarnanie, Grèce de l'Ouest. La situation vaut d'autant plus critique pour le roi de Macédoine que sa politique entraîna fatalement les Étoliens à chercher une alliance du côté des Achéens du Péloponnèse, avec qui ils se trouvaient par hasard en paix en 241. Alliance néanmoins paradoxale, il suffit de lire Polybe pour s'en convaincre, ces deux grands koinas étant toujours rivaux et en tout cas le plus souvent en guerre, se disputant la domination du Péloponnèse occidental. La seule chose qui alors, et très temporairement, unissait ces deux confédérations, c'était leur commune hostilité à la Macédoine. De fait, le roi Démétrios était bien décidé à ne pas laisser les Étoliens progresser davantage encore en direction de la Thessalie, ne voulant en aucun prix non plus voir les Achéens du Péloponnèse, qui, avec le coup de force d'Aratos sur la Crocorinthe, avaient commis un crime irréparable, de s'étendre encore vers l'Argolide, aux dépens de cet allié de la Macédoine qui était, au partir interposé, la cité d'Argos. Tout cela, me direz-vous, est beau et bon, mais n'a rien à voir avec l'histoire d'Athènes. Eh bien non. Eh bien non, c'est tout le contraire, d'une certaine façon, au point que l'on pourrait aller jusqu'à prétendre, même si les historiens anciens ne le font pas expressément, que l'Attique fut un des enjeux principaux de la guerre démétriaque. C'est que d'une part, Aratos de Sicyone, l'Achéen, avait plus que jamais en tête de faire entrer Athènes dans cette confédération, dans ce koinon achaïon, et que les Étoliens, je l'ai rappelé, maîtres désormais de la Béotie voisine, depuis 245, avaient des ambitions à peu près semblables. D'où un très grand risque pour le roi Démétrios de voir la cité d'Athènes lui échapper également. Ce qui ne fait aucun doute, c'est l'intérêt considérable de la documentation épigraphique athénienne pour combler les lacunes dont souffre ici encore la tradition historiographique, représentée essentiellement par un excursus de Polybe, par le récit plus riche mais chronologiquement imprécis et un peu tendancieux de Plutarque dans la vie d'Aratos, et enfin par un résumé de Justin dans son abrégé de l'ouvrage perdu de Troc-Pompée, résumé qui inspirait, non sans raison, d'infinie défiance, ce sont ces mots, au grand historien Maurice Hollot, notamment sur les relations qui auraient été enregistrées, qui auraient été engagées dès 239 entre Rome et les États de la Grèce de l'Ouest. C'est une espèce d'anticipation. Un document d'une importance exceptionnelle est la stèle d'Éleusis en l'honneur du stratège Aristophanès de l'Oïkonoé, avec deux décrets qui sont connus depuis longtemps. Mais une inscription qui reste un peu confinée au cercle étroit des spécialistes, parce que cette inscription est mutilée, en tout cas en ce, dans son début, qu'elle est très longue. Qu'elle est très longue, je passe, vous voyez, toute cette longue partie et encore un autre décret qui suit et qui semble avoir découragé les traducteurs. En tout cas, que je sache, le document n'est traduit dans aucune langue moderne, pas en français, ni en anglais, pas en italien, traduction partielle et médiocre d'ailleurs, en allemand. C'est pourquoi j'ai choisi de l'examiner tout à l'heure en séance de séminaire. Or, le second de ces décrets, d'Éleusis, qui émane du dème même d'Éleusis, fait mention de plusieurs archontes éponymes qui ponctuent, en quelque sorte, la phase la plus récente de la carrière du personnage honoré, donc c'est Aristophanès. Car après avoir été élu philarque au début, philarchos, c'est-à-dire commandant d'un escadron de cavalerie, il eut à s'acquitter peut-être avec le même grade, peut-être sans doute avec un autre grade, j'y reviendrai au séminaire, d'une tâche apparemment périlleuse, et cela se produisit, dit le décret, sous l'archontat de Lucias, l'année où la guerre éclata. L'année où la guerre éclata, vous voyez, Lucio Archontos, eno eniauto o polemos eneste. Observation tout à fait importante. Et la guerre en question, toujours en cours au moment où fut pris le décret, est identifiée sans le moindre doute à la guerre démétriaque, puisqu'il ressort de plusieurs passages de ce long texte que le roi régnant, alors, était Démétrios II. D'autre part, il découle de la suite du texte que l'activité militaire d'Aristophanès se prolongea encore 3 ans durant, car promu bientôt au titre de stratège pour la région d'Éleusis, et puis Éleusinos. Il fut actif sous 2 archontes successifs, Kimon et Ekphantos, soit à peu près de 236 à 234, et depuis un siècle, cela a permis de dater l'inscription vers 234, à mi-chemin entre le début et la fin du règne de Démétrios II. Mais un élément nouveau, d'une valeur inestimable, a été fourni par l'inscription d'Athènes, dont M. Karalambos Kritsas, directeur honoraire du musée épigraphique de cette ville, a bien voulu nous donner ici même la primeur, il y a 4 semaines, et ce n'était pas un poisson d'avril. En effet, les 2 décrets réunis sur une stèle, sur la stèle qu'il a montrée, honore un collège de magistrats préposés à la surveillance des céréales, les cytophylaques, collège dont on savait déjà par 2 fragments, ce que vous avez sous les yeux, trouvé dans les fouilles américaines de l'Agora, ce collège, on savait qu'il avait été en fonction sous l'archontat d'Athénodoros, archonte assez mal connu, daté imprécisément 255-253 à peu près. Or, telle qu'elle est maintenant complétée par un grand morceau inédit, c'est le fragment Kritsas, si je peux dire ainsi, que je ne montre pas, la stèle montre, atteste qu'Athénodoros, éponyme du premier décret voté par le Conseil, eut en réalité pour successeur immédiat l'archonte Lysias, c'est-à-dire celui-là même qui date le début de la guerre démétriaque vers 238. Mais l'intérêt du nouveau document ne s'arrête pas là, puisque, je le rappelle, il fait voir qu'entre le vote du premier décret à la fin de l'archontat d'Athénodoros et la promulgation du second une année plus tard, un événement s'était produit à la cour de Macédoine. Le roi Démétrios avait pris une nouvelle épouse, en la personne de Phtia, fille des souverains épirotes. Dans le premier décret, en effet, le nom du roi, Basileus Démétrios, est accompagné par celui de la reine Phila, qui n'est point sa femme, mais la mère, sa mère, la veuve d'Antigone Gonatas. Mention bien insolite, qui ne saurait être expliquée que par l'absence temporaire d'une épouse en titre. De fait, selon Justin, dans un passage livre 28, dès que la reine Stratonike, première épouse de Démétrios, eut connaissance du projet d'union matrimoniale politique du roi avec la princesse Épirote Phtia, elle s'en retourna en Syrie, qu'elle ait été ou non répudiée formellement. Or, l'événement, Justin le dit, se situe précisément à la veille de la guerre démétriaque. Par conséquent, l'archonte Athénodoros doit venir se placer en 239-8, son successeur Lysias en 238-7. C'est donc vers la fin de l'été 238, année de Grande Panathénée, que l'on peut désormais dater avec assurance le mariage de Démétrios avec Phtia, suivi une année plus tard, en 237, par la naissance du futur Philippe V, le grand adversaire des Romains, décédé en 179, à l'âge de 58 ans, selon le témoignage irrécusable de Polybe. Quant à la guerre qui, des années durant, devait tenir en alerte les Athéniens, elle dut vraisemblablement éclater dès l'automne 238, en tout cas avant la fin de l'archontat de Lysias à l'été 237. Mais si maintenant on revient au décret d'Éleusis pour Aristophanès, celui-ci, que constate-t-on? C'est que le personnage, avant d'accéder au poste de stratège de la région d'Éleusis, pour l'année 236-5, avait exercé, à partir de 239, d'autres fonctions militaires, sur lesquelles on passe vite dans le décret. À une époque encore antérieure, ento emprosten chronoi, soit dans les dernières années du règne d'Antigone Gonatas, il avait déjà fait preuve de dévouement civique comme gymnasiarque, keirotonetes, gymnasiarchos, vous le voyez, ligne 58. Lorsque pour la première fois, c'est le décret qui le dit, le peuple célébra une fête, otanto proton odemos sunetelesse. Et puis, il y a une lacune malencontreuse de 7 ou 9 lettres. Autrefois, on avait cru pouvoir restituer Démétriéa, car toute l'action paraissait s'être développée sous le roi Démétrios Polyor VII. Depuis un siècle, ce supplément est certes exclu, absolument exclu, et le récent éditeur, on le voit, a bien fait d'y renoncer. Mais doit-on pour autant se résigner avec lui à ignorer le nom de la fête? Il me paraît clair que s'impose aujourd'hui le supplément Antigoneia, puisque cette fête dut être instituée peu avant 240. Le décret d'Éleusis apporte ainsi un témoignage inédit sur le culte d'Antigone Gonatas en Attique et une indication des plus précieuses sur la date tardive, donc à l'intérieur du règne, de sa création. Disons enfin, pour achever cette leçon, quelques mots du décret déjà mentionné de Ramnonte pour Dikaiarchos. Ce beau document, de 50 lignes, pratiquement intact, a été, lui, largement traduit et diffusé depuis sa publication en 1930 par l'érudit grec Kougeas, notamment de façon commode dans le choix d'inscription grecque de Jean Pouliou en 1960. Ce décret fut voté en pleine guerre démétriaque, sous l'archonte Ekphantos, datable vers 235. Comme si souvent dans ce type de document, on commence par évoquer les services rendus à l'ensemble de la cité athénienne, avant d'en arriver au motif précis, actuel, local, qui occasionna l'octroi des honneurs. En l'occurrence, c'est la promotion toute récente, sur ordre du roi Démétrios, de Dikaiarchos au poste de commandant de la citadelle d'Érétrie. Vous voyez ça? Kai nun tetagmenos hypotou basileos Démétriou enteiakrai teiton Érétrion. Ce n'est donc plus en Attique que cet Athénien du dème de Tria est désormais actif, mais dans le baie voisine. L'information est d'un intérêt primordial dans la mesure où elle vient éclairer l'enjeu du conflit après déjà deux années de guerre, ou plusieurs années de guerre. Car on voit que dans sa nouvelle fonction, Dikaiarchos était intervenu en faveur de certains Athéniens qui, depuis Ramnonte, avaient déplacé leurs troupeaux vers le B. Tos upectenelois ta boskemata. Selon une pratique qui est bien attestée, en temps de trouble, verbe là est même, on peut dire, tout à fait technique. Mais pourquoi la côte ébéenne? Pourquoi passer sur la côte ébéenne depuis Ramnonte? Est-ce qu'elle aurait été plus sûre que les rives de l'Attique, quand ces deux pays se trouvaient l'un et l'autre placés dans le même camp, celui du roi de Macédoine, en but donc aux attaques des mêmes ennemis? De fait, lors de la guerre contre Alexandre, le stratège Archandros s'employa à protéger sur place les boskemata. Quand il y avait des pirates, il valait mieux les garder sur place, à Ramnonte. Leur transfert ne peut donc s'expliquer, comme le vit d'emblée l'excellent historien Pierre Roussel en 1930, que si la menace à l'époque de la guerre des Métriaques venait de l'intérieur des terres, plus précisément de cette Béotie si proche de Ramnonte. Or, précisément, si les Béotiens au début du conflit étaient soumis aux Étoliens, et donc dans le camp adverse, ils se livrèrent sans combat au roi Démétrios quand celui-ci se présenta à leurs frontières. L'événement est dûment enregistré par Polybe, qui en revanche a délibérément passé un autre événement sous silence. C'est qu'en même temps qu'il rangeait la Béotie sous sa bannière, on peut dire, le roi Démétrios parvint à assurer le contrôle sur la Mégaride aussi. La soumission de Mégare à ce roi, que plusieurs historiens ont jugé probable, paraît aujourd'hui définitivement confirmée par l'analyse que notre élève Adrien Robou a menée d'une série de décrets, dont celui-ci, mégariens, impliquant un changement institutionnel pour 4 ans au moins, à l'époque d'un Basileus Démétrios, Basileus Damatrio, comme on le voit, qui ne saurait être que le fils d'Antigone Gonatas. On devine ainsi, si vous voulez, derrière l'épisode du déplacement des troupeaux de Ramnonte, les Boskemata, vers le B en 236-5, une conjoncture politico-militaire de grande ampleur, laquelle rend compte également des efforts du stratège d'Éleusis, vers la même date exactement, pour remettre en état les forteresses dont il avait la garde autour d'Éleusis, celles de Panacton, de Philae dans le Parnèse, qui contrôlaient les routes depuis la Béotie vers l'Attique et vers la Mégaride, et cela juste avant, juste après que Béotiens et Mégariens ne se rallient à la cause de Démétrios, en provoquant par ce basculement une vive réaction contre Athènes de la part des adversaires du roi de Macédoine. Et de fait, la pression étolienne, surtout achéenne, demeura très forte aux frontières de l'Attique jusqu'à la mort de ce souverain et jusqu'à la libération d'Athènes en 229. Je vous remercie.